bottom, I go back to the top of the slide. Where I stop and I turn and I go for a ride. Till I get to the bottom and I see you again. Yeah, yeah.
Et comment tu la vois, la jeunesse d'aujourd'hui ?
C'est une génération sacrifiée, pour moi. Ils ont des obligations, des pressions dont on n'a pas idée, toi et moi. Par exemple, ils doivent commencer toutes leurs phrases par « en vrai » et les finir par « en fait ». Sinon, ils n'ont plus droit à leur bourse. Ça, il faut s'informer. Hein. Même un simple « bonjour », ils peuvent plus, ils doivent dire « du coup » quand ils voient quelqu'un. Donc, ils sont complètement perdus et au milieu de leur phrase, ils suffoquent parce que ils doivent placer le plus de fois genre, des justes, des fins, des suffixes en issime, de tous les sens. Tu vois, nous, quand on allait à la boulangerie, nous, on disait bonjour une baguette, et puis voilà, c'était le bon temps.
Oui, oui.
Et eux, ils peuvent plus, ils doivent dire du coup, en vrai, je vais juste, enfin, genre, juste en mode prendre une hyper baguettissime, en fait. Ils sont complètement ravagés, les enculés de jeunes, quoi. C'est ça, voilà mon message pour eux.
وتمسح الحزن عن المساكن. لأجل من تشردوا، لأجل أطفال بلا منازل، لأجل من دافع واستشهد في المداخل، واستشهد السلام في وطن السلام، وسقط العدل على المداخل. تراجع الحب وفي قلوب الدنيا استوطنت الحرب، وحين هوت مدينة القدس تراجع الحب وفي قلوب الدنيا استوطنت الحرب. الطفل في المغارة سأفتحها الأبواب وستغسل يا نهر الأردن وجهي بمياه قدسية، وستمحو يا نهر الأردن أثار القدم الهمجية. الغضب الساطع بجياد الرهبة، الغضب الساطع بجياد الرهبة، وسيهزم وجه القوة، سيهزم وجه القوة،
سيهزم وجه القوة.
البيت لنا والقدس لنا، البيت لنا والقدس لنا، وبأيدي القدس بأيدينا لله.
vendredi, on est 19h et c'est donc Frisson sur Canal B. Comment ça va, Ludo ?
Hey, salut Guillaume, ça va bien et toi ?
Moi, ouais, la grosse pêche. Donc pour celles qui suivent, on a fait une émission la semaine dernière consacrée à la situation palestinienne. On a invité notre maître d'objectivité, Vivian Petit, pour l'occasion. Et on s'est dit tous les trois que ça serait bien de continuer cette semaine, puisque bon, finalement, quand même, il se passe énormément de choses.
Ouais, puis on s'était dit surtout de faire un débat avec vraiment des points de vue très opposés les uns des autres et des organisations différentes.
Voilà, quoi. Je t'ai même pas dit bonjour.
Bonjour.
Vivian.
Bonjour.
Ça va ?
Ça va et toi, Guillaume ?
Ouais, ouais. Ben oui. Toi, je dirais. On ne te présente plus, on l'a fait plein de fois.
Ouais. Et la semaine dernière
trop.
En plus.
Ouais, ouais trop. Ouais.
Et t'es là avant tout pour redresser les torts et en plus t'es apolitique, comme tu le soulignais tout à l'heure, ce qui permet d'être objectif.
Oui, bah oui.
Et de rétablir les faits.
Non, bah là, c'est l'idée de faire un débat pour ou contre les génocides avec à la fois les points positifs et négatifs. Quoi.
Voilà, très bien. Et pour ça, tu nous as dit, je vais vous proposer de jeunes invités.
Voilà, exactement. Donc je les présente, c'est ça.
Ouais.
Donc il y a Arij Zanati, c'est ça. Bonsoir Arij.
Oui, bonsoir.
Donc t'es étudiante à Sciences Po, et c'est notamment toi qui avait organisé la soirée à propos de la culture palestinienne, enfin toi entre autres, qui avait co-organisé cette soirée qui s'était tenue au BAM à Clonay la semaine dernière.
Ouais, c'est ça, le 18 septembre au BAM, ouais.
Au profit donc de Palmed, ONG médicale franco-palestinienne.
Exactement, ouais, on a eu plus de 250 spectateurs réunis avec une somme totale de dons récoltés qui atteignait les 3 500 €. Donc c'est pas mal pour une première, on est vraiment fiers de nous.
Et je t'avais proposé, donc, ou nous te proposâmes de t'occuper de ce soir, donc de la programmation musicale. Donc, qu'avons-nous entendu ?
Eh bien, écoutez, vous avez entendu Zahlat El Madain, donc interprété par Fayrouz à la suite de la Naxa, donc en 1967, après la guerre des Six Jours. Et donc, en fait, cette chanson-là, elle rend hommage à la ville de Jérusalem et à ses peuples, donc au pluriel. En fait, elle rend hommage à toute cette diversité, que ça soit ethnique ou religieuse, et qui donc revient sur cette volonté des peuples de libérer cette ville triplement sainte.
Bah merci. On a aussi Malou Duhamel, donc qui est t'es co-coordinateur des Jeunes Insoumis, c'est ça ?
Bonsoir, oui. Co-animateur, exactement, des Jeunes Insoumis.
Co-animateur. Et donc c'est à ce même poste qu'il y avait eu Emma Fourreau, c'est ça, qui est maintenant donc, sur la flottille Bourgaza il y a quelques années ?
Alors oui, c'est ça. Elle était co-animatrice des Jeunes. En tout cas, elle a beaucoup milité avec nous il y a quelques années quand elle était étudiante à Sciences Po Rennes. Et aujourd'hui, effectivement, elle est eurodéputée et elle est sur la flottille là, en route vers Gaza.
Et t'es aussi le suppléant donc, de Marie Mesmer, qui est députée de Rennes et qui est elle aussi sur cette flottille qui vise à rompre le blocus vers Gaza.
Exactement, ouais, donc Marie Mesmer, députée de Rennes Sud, qui a été élue là en juillet 2024 et qui est effectivement en route vers Gaza elle aussi, donc sur la flottille.
Et donc il y a Fanny Lenoué, c'est ça ?
C'est bien ça, oui.
Bonsoir Fanny.
Bonsoir.
Et donc tu es là pour représenter l'Union Pirade, donc, qui est le principal syndicat étudiant de Rennes 2, qui à la fois mène des actions syndicales de défense du service public, de lutte contre la précarité étudiante, et qui est aussi engagé sur des questions internationales, et notamment dans la dénonciation du génocide en Palestine. Vous aviez il y a quelques mois invité Rima Hassan à Rennes 2.
C'est ça.
Et vous avez fait partie des organisations et des personnes donc, qui ont soutenu le blocage de Rennes 2 en soutien à Gaza. C'était hier, c'est ça ?
C'était hier matin, bien sûr, oui. On trouve ça intéressant et très important de justement montrer aussi que s'il arrivait quelque chose aux flottilles, ça se répercuterait aussi également sur nos universités et qu'on a une communauté étudiante qui est engagée contre le génocide. Et c'est pour ça qu'on a bloqué la fac du coup de Rennes 2 hier matin en affichant des drapeaux palestiniens et des drapeaux du coup qui soutenaient ouvertement les flottilles et qui s'engageaient contre le génocide. Mais voilà, parce qu'on tient aussi à rappeler que les génocidaires et toutes ces logiques génocidaires justement trouvent des relais dans l'université aujourd'hui, et c'est ce qu'on veut dénoncer avec notre syndicat en tout cas.
Quand tu dis par exemple trouve des relais, tu auras des exemples ou...
Bah oui.
Des noms, des numéros de téléphone.
Bien évidemment, mais je peux vous faire ça. J'ai une liste toute faite. Oui, oui, on a. Ça s'explique aujourd'hui beaucoup aussi par les partenariats du coup que les universités peuvent avoir, notamment avec des entreprises qui sont complices du génocide. Moi, je pense à Thalès, qui est l'exemple le plus marquant, on va dire, sur Rennes. L'entreprise Thalès, du coup, une entreprise qui arme l'armée israélienne. Et aujourd'hui, du coup, l'université de Rennes a du coup un partenariat avec l'entreprise Thalès, et on a des étudiants qui sont mobilisés depuis des années maintenant sur le campus de Rennes, mais de manière générale sur Rennes et nationalement aussi, pour dénoncer ces partenariats et montrer que l'université doit être un lieu non seulement un lieu d'émancipation, mais aussi un lieu engagé contre toute atteinte au droit d'exister des peuples, et notamment au peuple palestinien.
Voilà. Merci.
Problème.
Merci. Peut-être on vous demandera plus tard ce que vous faites aussi à côté. Quelles études vous poursuivez mais on commence. Je propose qu'on commence par la Palestine, parce que la flottille a quand même été attaquée assez sévèrement ces derniers jours. Je crois que c'était il y a le 23 et 24, quoi.
Ouais, je crois que c'était mercredi.
C'était dans la nuit, oui, de mercredi à jeudi, je crois, ou de mardi à mercredi.
Je crois que c'est mardi à mercredi.
Et donc ça a eu des répercussions à l'université.
Oui.
Est-ce que tu sais si tu as une idée de ce qui se passe ailleurs en France ?
Bien sûr. Alors, ailleurs en France, de toute façon, tout se fait un petit peu de manière coordonnée, parce qu'on sait très bien que si on doit avoir une opposition au génocide et au discours militariste, de manière générale, les universités, par exemple, nous, typiquement, à l'Union Pirate, on est membre du coup du syndicat national de l'Union étudiante, donc on se coordonne entre sections de l'Union étudiante à travers toute la France, et du coup on a beaucoup de camarades qui se mobilisent dans leur propre section, du coup contre ces génocides et en soutien aux flottis, et puis ça dépasse aussi le cadre syndical, des organisations politiques de jeunesse aussi qui sont présentes sur les campus. Donc voilà, on sait que partout il y a eu une réaction. Je sais qu'à Rouen typiquement pareil, ça a bloqué, à Nantes, alors que les camarades connaissent une situation qui est extrêmement instable. On a une mobilisation qui est très réprimée à Nantes par la présidente. On a l'intervention répétée des forces policières sur le campus. C'était pour une AG, c'était aussi pour des actions qui sont tenues. Mais les camarades ont quand même réussi, braver, on va dire, ces interdits, et réussi à bloquer le campus de Tertre hier également. Donc voilà, il y a eu d'autres actions qui ont été tenues. Il y a eu des déploiements de banderoles, je pense à Paris 8, des choses comme ça. Barien également aussi, en soutien aux flottis, et qui ont des mots d'ordre. Qui sont très simples, c'est qu'en cas d'arrestation des flottis, on bloquera tout. On bloquera nos lieux d'université et on s'exprimera du coup contre ces génocides, quel que soit l'avis de nos présidences, quel que soit l'avis de nos ministres de l'enseignement supérieur et de la classe politique et médiatique en général.
De manière générale, le 25, il y avait une date de mobilisation assez importante qui était dans l'affiliation du 10, du 18, mais qui était aussi par rapport au combat pour le peuple palestinien. Et donc tout ça s'est aussi greffé pas mal dessus, avec des mobilisations partout sur le territoire qu'unissaient effectivement les syndicats, les organisations de jeunesse de manière générale. Et de manière générale, oui, le monde universitaire, la jeunesse sont très, très mobilisés et surtout très attentifs à ce qui se passe et prêts à réagir à ce genre d'événement.
Oui, parce que je faisais ma petite revue de presse pour préparer l'émission, et c'est vrai que bon, c'est pas un sujet qui fascine les médias, c'est-à-dire la contestation du génocide en France, et en particulier la contestation des jeunes. On se souvient dans l'ère post 7 octobre, c'est 7, il y avait eu des blocages très médiatisés. On voyait des scènes et des images de Paris, Sorbonne, etc. Et puis, plus rien depuis. On l'évoquait la semaine dernière avec Vivian, c'est le traitement médiatique des flottis est quand même assez hallucinant.
Bah, ce qui me frappe, moi, à chaque fois, c'est quand même que, depuis quand même plusieurs décennies, dès qu'on parle de la question palestinienne, on est toujours dans une sorte de méta-commentaire, en fait. Il y a assez peu de descriptions factuelles et historiques, à moyen terme, de ce qui se passe en Palestine. Quand il y a une interview sur le sujet, ça va toujours être est-ce que vous condamnez, comment vous qualifiez, etc. Ou alors il va y avoir un agenda médiatique qui dépend énormément de l'agenda diplomatique. Et relativement peu, quand même, de la situation matérielle réelle qui est éprouvée par les gens sur place. Et toute proportion gardée, il se passe la même chose quand il y a un mouvement de soutien international à la Palestine ou même quand il y a un mouvement en général. Ça va être très souvent le méta-commentaire, quoi, souvent le procès d'intention. Ils font quelque chose pour la Palestine, mais pas sur un autre sujet de la part de gens qui font rien ni pour l'un ni pour l'autre, par exemple, et dont les Soudanais les intéressent uniquement quand il s'agit de les opposer aux Palestiniens, par exemple. Et donc, ouais, ces débats-là ont souvent pour but de faire semblant d'en parler, mais d'obstruer et d'être une sorte d'écran de fumée. Bourdieu disait qu'il y avait des gens qui étaient payés pour ne rien dire, en fait.
Ouais, non, mais c'est ça. Je me disais. Bon, après, la discréditation ne s'embarrasse pas de cohérence, mais il y a quand même ce truc de la croisière s'amuse, qui est l'élément de langage de l'armée israélienne qui est vraiment en France énormément repris dans les médias. Et moi, je me disais, et j'ai vraiment été étonné de à quel point c'était repris partout, et je me disais, il y a vraiment une incohérence entre l'idée que ces gens seraient des guignols. Et ça ne servirait à rien. Et donc, du coup, bah, si c'est le cas, pourquoi les attaquer, en fait ? Si c'est des guignols, laissons-les faire. Ou, de la même manière, si ils ne font que ramener 0,001% des denrées dont les Gazaouis ont besoin, bah, pourquoi les empêcher aussi de le faire, quoi ? Donc, d'un côté, il y a le truc... caritatif célébré quand c'est Coluche pour les Restos du Cœur ou Balavoine pour l'Éthiopie ou je ne sais quoi. Je vous donne des références que vous ne connaissez pas peut-être. C'était des gens de l'ancien temps.
C'est mon fils ma bataille. Hein.
Okay. On est étudiant en histoire. Hein, donc.
Oui, c'est vrai.
Arige, cette soirée à laquelle tu as grandement contribué la semaine dernière, tu disais à récolter des fonds, et donc ça va où comment ça s'organise l'après, l'after?
Alors, l'after soirée, oui. Ouais, comme je disais, c'était 3 500 € de récolter environ, donc qui vont aller 100% à Palmade. Au début, on avait dit que 90%, et en fait, on est rentré dans notre petit budget d'organisation, et donc bon... On donne tout, et donc en fait ça va se passer très simplement. Palmade, des dons sur le site internet, on va tout t'envoyer directement là-bas. Après, moi ce que je disais, c'est que le 18, l'événement du 18 en tout cas, c'est absolument pas une fin, c'est-à-dire que on voulait éveiller les consciences, on voulait, en fait, notre plus grande réussite, honnêtement je pense, c'est quand certaines personnes sont venues nous voir après et nous ont dit: putain, moi j'y connaissais rien, je suis juste venue comme ça, parce que je passais et tout. Et j'en ai appris des choses. Le film, il m'a marqué. C'était dur de voir des Palestiniens, même s'il n'y avait pas d'image de gens qui se faisaient tuer, des gens qui souffraient. En fait, rien que de les entendre raconter, j'en avais des frissons. Donc en fait, c'était ça. Le 18, c'était un éveil des consciences avant tout. Et je pense que pour certains, ça a été mission accomplie, en tout cas de notre côté. Donc au-delà de cet aspect caritatif, c'était aussi beaucoup un aspect d'éveil des consciences pour continuer sur cette lancée, évidemment.
Et peut-être avant de passer à une pause musicale, vous connaissez tous les trois ?
Non.
Tous les trois, non. Fanny et moi, on se connaît un petit peu, mais tous les trois, non. On s'est déjà parlé. Mais...
Vite fait, ouais.
Effectivement.
Toi, Arige, par exemple, tu ne fréquentes pas la France Insoumise ou Union Pirate. Tu ne manges pas ce pain-là.
Ouais, je m'éloigne. Non, mais non. Ben, c'est vrai que moi, j'ai jamais été engagée dans du militantisme entre guillemets. Institutionnalisé. Quand je fais des actions, c'est quelque chose que je fais de façon vraiment très individuelle. Mais j'ai toujours été attirée par ce milieu-là, et je pense que l'engagement sur la question palestinienne, ça a vachement éveillé ça en moi. En fait, je me suis dit, ok, Moi, j'ai cette conscience-là de devoir agir individuellement, mais en fait, je suis incapable de rien toute seule. Et donc, c'est vrai que je me suis rapprochée de l'UP, donc Union Pirate, ou aussi les Jeunes Insoumis, et ils m'ont été vraiment d'une grande aide pour l'organisation de ce projet. Et donc, c'est vrai que quand il y a des blocus, etc., je participe volontiers. Mais je ne suis pas officiellement adhérente, quoi. Pas encore, en tout cas.
C'est pas grave, hein. De toute façon, on ne peut pas adhérer, je pense, à la France Insoumise.
Non, mais oui. Oui, non.
Mais Union Pirate, oui.
Ouais.
Ouais. 2 € l'adhésion. Ça nous intéresse.
On a la chance d'avoir sur Rennes quand même des organisations syndicales et des organisations de jeunesse, et notamment effectivement les Jeunes Insoumis et l'Union Pirate, qui sont des organisations effectivement assez fortes, assez structurées. Donc on est présent un peu partout, et je pense qu'on a, on a un certain nombre de camarades un peu comme ça qui sont autour et qui ne sont pas forcément là, mais dont on sait qu'on peut compter sur dans les moments les plus importants.
On continue en musique ?
Parfait.
T'as un choix particulier ou je fais dérouler la playlist?
Oui, j'ai un choix particulier. Vas-y. Alors, c'est Lover's Hymn. Est-ce que je peux raconter la petite histoire avant?
Bien sûr.
Oui, alors moi, je suis fan d'histoire d'amour. Et donc, cette musique, c'est un remix de textes qui ont été repris et donc recomposés en chansons. En fait, c'est des textes qu'écrivaient les femmes palestiniennes à leur mari qui était justement engagé dans la résistance palestinienne dans les années 40 et 50. Et la particularité de ces textes, c'est que c'est des textes cryptés, codés, parce que en fait, pour ne pas se faire comprendre des forces britanniques et des forces sionistes, pas encore israéliennes à cette époque, c'était des petites références, des petits mots, des petits jeux de mots que seuls les Palestiniens comprenaient entre eux. Et donc, en fait, cette musique, elle regorge de petites références culturelles palestiniennes, et c'est pour ça qu'elle me tient particulièrement à cœur.
Shamele la liya hawele la dini shamele la liya hawelo Alele la liqa bolo lom tiftah shamele la liya hawelo Walele la labat ma'ile lirrih shamele la liya hawelo Yasile
tous, elle est la rivière, elle est la rivière, elle est la racière, elle est l'eau. Oui, elle est la rabitre, l'olohma et sel, elle est la mière, elle est l'eau. خلي للربيع خلي لك فصاك خلي لدشار ولي لو
Vous êtes toujours dans Frisson sur Canal B en présence de Vivian, de Fanny, de Malou, de Harry, et de Ludo évidemment. Un morceau, donc le morceau Harry, tu nous en as parlé avant qu'on le diffuse. Tu aurais une petite comment dire, une petite anecdote là sur ces espèces de codes secrets amoureux que tu évoquais pour le texte de la chanson.
Aïe, 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 tu me poses une colle, parce que les codes secrets amoureux, c'est ma mère, en fait. On aurait dû inviter ma mère, parce que ma mère m'a raconté l'anecdote, mais c'est vrai qu'elle m'en a pas parlé plus que ça. En fait, je comprends ce qu'ils disent, mais c'est vrai que même pour une native en arabe, en fait, c'est complètement crypté, c'est-à-dire que c'est vraiment que les locaux en Palestine qui comprennent ce qu'ils se disent. Donc, voilà. C'est pour ça que j'ai pas plus d'infos que ça.
Ok, tu aimes que ça reste mystérieux.
Ouais, moi c'est l'histoire vraiment que j'adore. Je la trouve géniale en vrai.
Et donc je proposais peut-être qu'on se reprenne un petit temps sur les réactions françaises à la fois au génocide lui-même, mais aussi aux actions qui sont menées. J'ai regardé rapidement et je pense qu'on a tous entendu les personnalités connues médiatiques qui étaient sur ces flottilles, mais globalement, au-delà de quelques artistes reconnus, un certain nombre de députés et d'eurodéputés de la France Insoumise, on évoquait peut-être aussi quelqu'un d'Europe Écologie.
Ouais, en fait, il y a une, il y a deux flottilles, donc il y a une cinquantaine de bateaux qui là ont accosté, notamment suite aux attaques en Grèce, et qui vont repartir soit ce soir, soit demain. Voilà, il y a une partie des bateaux qui ont été endommagés, d'autres qui sont trop petits, donc on fait la part en signe de soutien, mais qui vont pas faire les derniers 1000 nautiques jusqu'à Gaza. Donc il y a cette flottille-là qui repart, et il y a une autre flottille en fait qui s'appelle les 1000 Madeleine. Donc Madeleine, en fait, c'est le nom d'une pêcheuse de Gaza qui était la seule pêcheuse de Gaza à l'époque où il y avait des pêcheurs à Gaza, où ils étaient déjà attaqués dans les eaux territoriales palestiniennes par l'armée israélienne, donc il y a une dizaine d'années. Donc qui était la seule femme qui pêchait, qui comme beaucoup de pêcheurs à Gaza faisait partie du syndicat Louac, qui est le syndicat à la fois des fermiers et des pêcheurs, et donc c'est en soutien donc à cette femme qui ne peut plus pêcher comme l'ensemble des pêcheurs, parce que les eaux sont occupées, que le port est détruit, etc., que le bateau sur lequel il y avait notamment Rima Hassan et Greta Thunberg s'était appelé le Madeleine. Et donc à ce moment-là, quand le bateau avait été attaqué au printemps dernier, les gens avaient dit si c'est comme ça, on relancera 1000 Madeleine, donc c'est le nom de la campagne. Et donc cette flottille-là part ce soir normalement de Sicile. Donc là, c'est une autre flottille qui va suivre donc celle qui repart de Grèce de demain probablement, sur lequel il y a notamment une eurodéputée écologiste, et voilà. Et sur la première flottille donc qui va repartir de Grèce, il y a 37 ressortissants français, et en fait il y a d'autres États européens, notamment l'Espagne ou l'Italie, qui ont assuré leurs ressortissants de leur protection, qui ont même envoyé des bateaux s'il fallait secourir des rescapés, ce que n'a pas fait la France. La France s'est limitée à condamner dans les termes les plus minimaux qui soient l'attaque, et ensuite à rappeler que c'était dangereux d'aller à Gaza, dans des termes aussi vagues que ça, sans dire pourquoi les gens veulent y aller, c'est dangereux, à cause de qui, à cause de quoi, enfin c'était à ce niveau de généralité, et quelque chose d'assez scandaleux. Donc des États qui sont complices d'Israël, qui laissent Israël opérer un blocus, ce qui fait que des associations, que des syndicalistes, que des artistes, eux, se mobilisent pour rompre ce blocus, parce que les États ne font rien pour le rompre, et donc ensuite ce sont des États qui, plutôt que de se joindre à la démarche, on aurait pu dire vaut mieux tard que jamais, non, se mettent à faire la morale aux gens gens qui font ce que les États n'ont pas fait. Et donc il y a une pétition lancée par l'association Waves of Freedom, qui est l'association qui, pour le dire vite, est l'incarnation, le relais en France de la flottille, donc qui est en ce moment en Grèce. Une pétition qui a été lancée par cette association et par les proches des membres de la flottille pour exiger de l'État français qu'il soutienne ses ressortissants sur la flottille.
Donc, parce que je crois l'Italie et l'Espagne font.
Voilà.
Ils envoient des bateaux.
Ouais, il y a deux bateaux envoyés par l'Italie et un par l'Espagne, ouais, les deux ont précisé que s'agissait pas de rompre de manière militaire le blocus en rentrant dans les eaux territoriales palestiniennes, mais de protéger la flottille dans les eaux internationales.
Ok, et donc Malou, la France insoumise, elle est représentée sur ces bateaux, grâce à Vivian... On va trouver une Europe écologie.
Oui, tout à fait. Mélissa Camara. Oui. Il y a Mélissa Camara pour les écolos, donc qui devrait embarquer
la Madeleine. Ouais. Et on a quatre parlementaires de la France insoumise qui sont au moins quatre, qui sont sur la flottille. Donc Marie Mesmer, Emma Fourreau, mais on a aussi François Piquemal, si je ne m'abuse, ainsi que Farida Amrani, députée de l'Essonne.
Est-ce qu'il y a des discussions avec, je sais pas moi, le PC par exemple là-dessus?
C'est une excellente question parce qu'en plus le Parti communiste, par exemple, il y a une dizaine d'années, il y avait le député du Havre, Jean-Paul Lecoq, qui avait été sur une flottille. C'est un parti qui a longtemps eu une tradition très importante de soutien à la Palestine et qui a été vraiment moteur dans ce combat-là. Et c'est vrai que bon, on se demande un peu pourquoi effectivement ils sont si timorés là ces dernières années sur ce genre d'action. Même s'ils entretiennent encore typiquement des liens avec l'OLP, ils font des choses. Hein, mais effectivement, on s'attendait à les voir un peu plus en avant. Et effectivement, pas de parlementaires communistes sur les flottilles.
Il y a un journaliste de l'Humanité, mais il y a un vrai décalage justement entre l'expression du PCF et l'Humanité, qui est vraiment sur la ligne historique de solidarité internationale, contrairement à la direction actuelle du Parti communiste. Ouais. Mais il y a un journaliste, oui, de l'Humanité, qui est celui qui est notamment passé dans plusieurs médias, y compris pour dénoncer la réaction minimale de la France au moment de l'attaque de la flottille par drone. C'est lui qui avait, pendant la nuit, appelé la permanence du ministère des Affaires étrangères, qui a dit « Ah, mais si vous nous parlez d'attaque militaire, nous, on est le ministère des Affaires étrangères, pas le ministère de la Défense. Bon, on va faire passer l'information, on vous rappellera. » Et il n'y a pas eu d'infos et de contact et de soutien réel, si ce n'est une communication officielle très très minimale de la part de la France. Donc c'est ce journaliste de l'Humanité, pareil, le directeur de l'Humanité, Fabien Gay, lui mène un vrai travail, etc. La direction du Parti communiste, c'est autre chose.
Mais on sent, oui, tout le monde n'a pas la même ligne sur le sujet dans le parti. Typiquement, j'ai encore vu justement une intervention du député Lecoq il y a quelques jours qui soutenait fortement la flottille. De l'autre côté, Fabien Roussel, on n'a rien entendu. Fabien Gay, effectivement, est plutôt dans le soutien. Enfin bon, voilà, mais de manière générale, la gauche internationale et européenne est assez mobilisée. Typiquement, dans le Sirius, donc quel bateau sur lequel il y a Marie, il y a des députés du PSOL brésilien, il y a des députés argentins. Je sais qu'on a des camarades dans nos alliés européens, des camarades danois, des camarades du bloc portugais, des camarades de Podemos en Espagne qui sont sur la flottille. Donc oui, au niveau international, la gauche est quand même... la gauche de rupture est quand même très mobilisée. Après, c'est vrai que oui, au niveau français...
Au niveau français, c'est assez... Bon, après, on parlera pas de... Enfin, je sais pas si vous voulez parler de la position du Parti Socialiste, si jamais il y en a une sur la position. Question. Mais je les ai pas entendus ni discréditer, ni flinguer le...
Je crois que c'est très vague, quoi. J'ai vite fait, Olivier Faure est interrogé là-dessus, botté un peu en touche, comme le fait Villepin, quoi, où ils peuvent plus attaquer Briantette et discréditer la solidarité avec la Palestine, donc ils s'en tirent par des phrases aussi vagues que, bah oui, il faut lever le blocus, ça, puis ça indigne des citoyens. Enfin voilà, mais c'est à ce niveau-là de généralité, il n'y a pas de soutien actif, ou même...
Parce que moi, je me suis dit quand même, bon, on vit, évidemment, chaque époque est singulière, la nôtre l'est. On a un ancien président qui va en tôle. Bon, pour ça,
ah
peut-être.
Bon, j'ai pas vu. On boit. Bien en parler.
Un petit coup tout à l'heure. Mais là, quand même, en fait, il y a des attaques d'un pays étranger, de drones. Bon, a priori, des attaques d'Israël. Je veux dire, c'est pas absolument confirmé, mais on se doute que bon, les drones.
Il y a des suspicions au vu du contexte.
Voilà. Donc, un pays étranger attaque des bateaux qui sont actuellement dans les eaux internationales, sur lesquels se trouvent des élus de la République, et rien. Et là, je me dis, bon, c'est quand même quelque chose de rare, quoi. Je sais, j'ai pas de d'exemple en fait dans l'histoire d'une telle division politique qui ferait que l'État français ne bougerait pas, alors même que, même pas, je veux dire, vous et moi, c'est-à-dire des citoyens lambda anonymes, mais quand même des députés, quoi. C'est particulier, non ? Vous analysez ça comme continuité, ou alors on passe un cap.
J'aimerais juste faire remarquer qu'en soi, il y a aussi des diplomates, en soi, ressortissants européens, qui ont été attaqués il y a quelque peu. Et là, vraiment, c'était des diplomates envoyés pour ça sur le sol israélien qui étaient sous la protection de leurs états d'origine. Et aucun état n'a vraiment levé le petit doigt pour eux. Donc, en soi, on peut pas attendre grand-chose, selon moi, pour des députés en pleine mer, malheureusement, quoi.
Mais est-ce que, pour vous, est-ce que... Enfin, moi, j'ai trouvé ça incroyable. Mais est-ce que, pour vous, c'est symptomatique de quelque chose ? Ça veut dire, au-delà du conflit dont on parle, est-ce que c'est pas aussi une espèce de dilution totale du concept de république, de nation ? Enfin, il y a quand même quelque chose un peu de...
Comme dirait Luc Sarkozy, tu trouvais ça tellement incroyable que c'est à peine croyable.
Exactement. Même, on a quand même des partis comme le Parti Socialiste qui se confinent du coup à ses frontières et qui avaient fait l'action le 22 septembre du coup d'ordonner de hisser le drapeau palestinien du coup sur les mairies. Je pense que ça a été aussi un moyen justement de dévier le sujet des flottilles et de dire regardez, la République c'est aussi les mairies parce qu'on a quand même une échéance qui sont les municipales qui arrivent, donc il y a toujours des intérêts derrière. Et voilà, nous ce qu'on veut montrer c'est que nous aussi on peut faire des choses très symboliques et qui n'ont même pas été des choses faites de manière générale. À Rennes on a bien vu que le drapeau a vite été enlevé du fronton de la mairie. Donc voilà. Non, donc il y a beaucoup de... Pour moi il y a quand même aussi une classe politico-médiatique qui a réussi à imposer un discours. Je veux dire, du coup, direct, ce qu'on a dit tout à l'heure, après le 7 octobre, c'était ce que vous condamnez, c'était vraiment le ressenti vif, et bien sûr que ces discours-là, c'est pas seulement des choses qui ont été faites après le 7 octobre et qui maintenant sont évanouies, c'est toujours des discours, le discours sur la condamnation, les discours qui vont en fait diviser les gens, qui vont prendre la question des otages effacer totalement ce qui se passe en Palestine, cette famine organisée, etc. Donc on voit qu'il y a quand même pour moi une victoire de ces classes politico-médiatiques, médiatiques d'extrême droite, l'intérêt des milliardaires, etc., d'extrême droite. Enfin, on voit et ça a pris aussi les organisations de gauche, certaines organisations de gauche, qui se sont tues ou qui ont décidé de rester silencieuses pour ne pas plus exciter, on va dire, les Français et les Françaises, pour bien paraître, pour paraître lisse en face de ces médias et pour surtout garder leurs intérêts électoraux, quoi. Donc voilà, on a quand même, moi je pense, un parti socialiste qui a sombré un petit peu dans cette apparence-là, qui a sombré un petit peu dans ce côté-là. Dans cette volonté d'apparaître comme républicain, comme très lisse, comme des gens qui aussi, on a bien vu avec le communiqué qui s'est sorti sur les amis d'Israël, etc. Voilà, il y a des choses qui ont été faites qui sont, qui sont pour moi une bifurcation du Parti Socialiste, hein, même s'il a été engagé il y a quelques années maintenant, voire quelques décennies. Il y a quand même quelque chose de très notable. Et aussi, c'est ce qu'on montre avec nos organisations syndicales aussi, c'est que politiquement, il y a des choses qu'on peut attendre et qu'on ne peut plus attendre. Et c'est une mobilisation citoyenne, c'est par la mobilisation populaire qu'on va réussir à faire des choses. Et les flottilles en sont un très grand exemple. Parce que typiquement, la reconnaissance de l'État de Palestine, qu'elle soit espagnole, française, etc., c'est grâce aux mobilisations populaires. Et ça, je pense qu'on tient tous à le souligner. Mine de rien, même si ça ne plaît pas au président de Rennes 2, c'est grâce aussi aux actions qui se font sur les universités, aux petits blocus minoritaires qui ont lieu à 6h30 du matin, jeudi 25 septembre. Donc voilà, c'est ce sec qui est intéressant. Et les partis politiques se font ou pas le relais de cette mobilisation populaire et la transforme en quelque chose politiquement ou décide de rester confiné dans leur position dégueulasse, je veux dire.
Ok.
Mais c'est vrai que c'est toujours extrêmement impressionnant de voir, surtout quand on connaît l'histoire diplomatique de la France, de voir justement des parlementaires qui sont littéralement kidnappés en nom international, qui sont retenus plusieurs jours dans des geôles israéliennes sans qu'il y ait de réaction officielle du Quai d'Orsay. C'est quand même assez incroyable, surtout quand on voit par ailleurs typiquement Giorgia Meloni, qui est quand même
l'extrême droite européenne, l'héritière la plus pure des mouvements d'extrême droite néofasciste italien, qui va derrière envoyer des bateaux de guerre pour escorter la flottille. Et à côté, on a le pays qui est quand même celui de... on peut penser aux réactions de Chirac il y a quelques années, à Dominique de Villepin, ce genre de choses. C'était quand même il n'y a pas très longtemps et c'était la droite.
Tu fais référence à la...
Par exemple, la visite de, c'est assez connu, la visite de Jacques Chirac à Jérusalem dans les années 2000, ce genre de choses. On est quand même pas.
Oui, quand il envoie chier le service secret israélien qui l'escorte et finalement le harcèle.
Alors qu'on n'est quand même pas avec des gens qui sont particulièrement engagés pour les droits du peuple palestinien. Oui. Et aujourd'hui, on a effectivement, effectivement un effondrement du concept de république, je pense qu'on peut le dire, quand le Quai d'Orsay ne va pas pour soutenir des parlementaires français qui sont kidnappés en nom international, on peut se poser effectivement des questions.
J'avais une question peut-être un peu hors sujet, mais comment est-ce qu'il y a des raisons matérielles ou idéologiques qui expliquent cet engagement à deux vitesses de la part de l'Italie et de l'Espagne d'un côté et de la part de la France de l'autre? Je me tourne vers Vivian, puis de connaissances infinies. Est-ce qu'il y a vraiment des raisons ou pas? Parce que je me pose littéralement la question, pourquoi l'Espagne est là? La France, rien du tout comparé à ça, quoi.
Réponds, si tu sais pas répondre n'importe quoi, t'es obligé là.
Je sais pas répondre,
on va te croire de toute façon.
Non, mais déjà, il y a quand même des différences entre le gouvernement espagnol et le gouvernement français en ce moment, mais je pense que ça joue plutôt à la marge. Historiquement, la France a beaucoup plus d'intérêt au Moyen-Orient. Enfin, les accords Sykes-Picot, qui sont les accords où la Grande-Bretagne et la France se répartissent le Moyen-Orient à la fin de la Première Guerre mondiale, ne concernent pas l'Espagne, par exemple. Donc, il y a quand même des intérêts économiques, des liens historiques, politiques, économiques, de beaucoup plus longue date, quoi. Et même une partie de la bourgeoisie française, par exemple, s'est opposée à la guerre d'Irak, mais aussi pour ses propres raisons de partenariat historique, de partenariat économique, que ce soit les liens de Le Pen avec Saddam Hussein, les liens historiques de la France avec le Liban, avec la Syrie, etc. C'est aussi ça qui fait qu'un personnage comme De Villepin, par exemple, peut sembler à contre-courant, mais parce qu'il est anachronique, en fait. Parce qu'il est nostalgique des partenariats de la France et des intérêts de la France avec les régimes arabes d'il y a 20 ans, en fait.
Un autre des éléments de réponse, c'est aussi tout simplement les opinions publiques. L'opinion publique italienne et l'opinion publique espagnole sont très tranchées. Et depuis d'ailleurs, pour des raisons historiques, ça fait très longtemps, mais voilà, il y a un sentiment pro-palestinien, entre guillemets, si je puis dire, qui est quand même de solidarité avec les Palestiniens, qui est très ancré dans ces deux sociétés.
Merci.
Musique.
Alors, on a parlé de l'engagement français, mais on n'a pas parlé de l'engagement des pays arabes. Et moi, j'aimerais bien passer la musique When El Malayin de Julia Botros, parce que When El Malayin, littéralement, c'est où sont les millions? Où sont les millions, justement, d'Arabes qui ne font rien? Et donc, c'est un message directement adressé aux peuples arabes pour cet abandon, en fait, littéralement, du peuple palestinien il y a de ça bien longtemps maintenant.
Oh, سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النغم موطني 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 ذا الإباء موطني 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 يا أنا رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم فلنقم كلنا بالدواء والقلم كلنا عفو على من يصارع السقم فلنواصل المسير نحو غاية أهم ونكون حقا خير أمة بين الأمم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النغم كم سهرنا من الليالي للصباح لا ننم كم عراقيل كسرنا كم حفظنا من رزم كم جسور قد عبرنا كم ذرفنا من حمم نبتغي صيد المعالي نبتغي رأس الهرم نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم نستهين كل غالي كي نحقق الحلم انسى إنا لا نبالي فلنسير للأمل إن قمة الجبال تستحق لا جرم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النغم فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم إن كل ما جنينا من جهودكم نجم والدي يا خير عون كان لي عند المحن أنت يا من تملكين جنة تحت القدم كل ألفاظ لساني كل شكر قد رهن اجمعوا كل المعاني من عراض أو عجم لا توافي شكرهن لا تجاوز العدم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النغم هذه فرحة الأهالي لا يساويها رقم حين يشهدون حالي بالسرور يبتسم فرحتي وصرختي تكاد تسمع الأصم يا نجوم السماء يا عبائق النسم يا سحائب الرجا يا طيور الحرم يا رعود الشتاء يا جميع الألم اشهدوا هذا المساء أنني قلت القسم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النغم
Et oui, vous êtes bien en frisson avec une playlist finalement assez inhabituelle dans cette émission sur Canal B. C'est combien le... C'est 94, c'est ça.
C'est combien ?
Ouais, non, mais j'ai...
94 euros, monsieur.
Ouais. 94 MHz. Non, je me suis rappelé subitement qu'il fallait qu'on le dise de temps en temps, même si bientôt il n'y aura plus de FM, donc il n'y aura plus de 94 MHz. Ce sera uniquement sur la DAB+. Donc... une émission consacrée à la situation à Gaza et aussi sur toute la Palestine, peut-on dire. On le disait en début d'émission.
On peut désannoncer ce qu'on a écouté.
Ah oui, c'est vrai.
Ouais, carrément. Petit retour sur la première musique, When El Malayin. Quand je disais où sont les Arabes, ce n'était absolument pas un discours de grosse colon moralisatrice, absolument pas. C'est vraiment ce que pense une grosse majorité de la société civile dans le monde arabe, en commençant par ma propre famille, en fait, où il y a vraiment un désarroi du côté de cette société qui est en complète déconnexion en fait avec leur gouvernement, en commençant par la Libye qui, je le sais, sous Kadhafi était très pro-palestinienne, et finalement maintenant il y a un désengagement à cause aussi du chaos politique là-bas, mais ça ne s'arrête pas là. Même lorsqu'il y a un gouvernement tel que au Maroc ou en Tunisie, c'est toujours stand-by, rien du tout, c'est très tabou. Et pour la deuxième chanson, qui est beaucoup plus triste, mélancolique. C'est une musique en fait qui compte justement cette souffrance palestinienne par un Palestinien lui-même, et c'est pour ça que ça me tenait très à cœur de la faire passer, même si elle ne rentre pas dans la direction artistique à la base.
Si.
Ah, c'est validé.
Ouais. Tout rentre dans la direction artistique. On a même fait une émission spéciale Jean-Jacques Goldman, pour te dire. Donc, le spectre est large. On parlait au début de l'émission de votre âge. Aucun de vous trois n'a 30 ans. Contrairement à Ludo.
Non, je suis pas 30 ans non plus.
C'est quoi déjà vous votre rapport au plus âgé? Alors par exemple Union Pirate, je crois que c'est un syndicat de jeunes. Mais par exemple la France Insoumise, ce n'est pas un mouvement politique uniquement de jeunes. Donc est-ce que il y a un accord tacite sur la question palestinienne entre les générations, ou est-ce qu'au contraire tout le monde n'est pas d'accord? Comment ça se passe? Est-ce que vous trouvez que les vieux aussi en font suffisamment ou non? C'est quoi votre point de vue de jeune, quoi? Expliquez-nous la vie un peu aujourd'hui.
Je pense qu'en soi, c'est très net qu'il y a une mobilisation particulière de la jeunesse sur cette question. Après, la mobilisation sur la Palestine, elle est générale et elle touche toutes les générations. Et notamment, par exemple, alors ce n'est pas leur faire un jour, mais quand on voit par exemple les camarades de la FPS, on a beaucoup de camarades qui ont des cheveux un peu plus grisonnants que nous. Mais je pense qu'il y a peut-être un rapport différent selon les générations à la cause palestinienne, au soutien à la cause palestinienne. C'est quelque chose qui touche toutes les générations. Après, effectivement, comme beaucoup de causes un peu comparables, que ce soit la lutte contre l'apartheid à l'époque en Afrique du Sud, que ce soit la lutte en soutien au peuple vietnamien, ça touche énormément le monde universitaire, et donc plutôt des jeunes aussi, et ça touche beaucoup la jeunesse. Et oui, effectivement, il y a une jeunesse qui est très mobilisée, Après, oui, ça touche à peu près toutes les classes d'âge. Hein.
Bon, pour prolonger la question, qui est une question que j'aime poser aux invités politiques, c'est un peu de questionner vos origines, l'origine de votre militantisme. C'est-à-dire que pour Arige, finalement, on comprend, tu nous l'expliques, c'est ta famille, c'est tes racines, et donc il y a une solidarité qui est palpable et compréhensible, mais pour un parti politique, pour un syndicat étudiant, est-ce que c'est l'injustice de la situation qui vous mobilise? Où est-ce que ça prend racine?
Alors c'est une très vaste question. Après, je pense que dans l'engagement, tu retrouves un petit peu des racines sociales. Moi, je pense que je crois en marxisme. Mais moi, je pense que on a aussi, en tout cas dans mon propre engagement, dans mon engagement personnel, Moi, je sais que j'ai commencé à militer, c'est pendant la réforme des retraites. Je sais que les mouvements sociaux touchent beaucoup les milieux jeunes, universitaires. Moi, j'étais en classe préparatoire à cette époque, à Rennes, du coup, Châteaubriand. Et du coup, on avait, enfin voilà, il y avait de manière assez récurrente des blocus de lycée. Et oui, les blocus, ça convainc des gens, mine de rien. Voilà, on a toutes ces formes-là qu'on peut prendre les mouvements sociaux au sein de la jeunesse et qui ont beaucoup mobilisé, parce qu'après, la jeunesse est facilement, on va dire, mobilisable. Je sais que le milieu, par exemple, en tout cas, moi, j'ai fait un peu de syndicalisme lycéen, et on a pu voir que c'est quand même très différent dans le milieu lycéen par rapport au milieu étudiant, parce que mon milieu lycéen, on est quand même très affairé, très renvoyé à sa famille. On a des emplois du temps qui sont très chargés, etc. Et il y a beaucoup moins de manœuvres possibles à l'intérieur du milieu lycéen, à l'intérieur de l'administration des lycées. Mais typiquement, dans les milieux étudiants, avec le syndicat, ce qu'on essaie de faire, en gros, c'est d'arriver... De parler aux étudiants, donc nous ce qu'on fait, puisqu'on est un syndicat, c'est qu'on défend les droits des étudiants et des étudiantes, et bien évidemment défendre ces droits-là, c'est défendre les injustices et les inégalités, hein, ça semble bateau, mais on aime mal rappeler, et du coup c'est d'avoir un discours sur la fac. L'Union Pirate, on a quand même une certaine marque de fabrique, on représente quelque chose sur Rennes, et c'est ça qui nous semble très important, c'est non seulement d'avoir ce discours syndicaliste de défense des droits des étudiants, mais c'est aussi de présent sur les batailles politiques qui peuvent avoir lieu à Rennes. Je pense l'année dernière, tout bêtement, ce qui s'est passé avec le Jarl, avec le 8-8, etc., c'était une question de l'extrême droite, des milices d'extrême droite, etc., de ces discours aussi sécuritaires qui prenaient, qui s'épanouissaient un petit peu, on va dire, dans le milieu rennais. Et ça nous semble important, en tant que jeunes, d'avoir notre voix, enfin, notre mot à dire un petit peu sur tout, et notamment sur la situation des Palestiniens et des Palestiniennes, parce qu'il existe des leviers dans les universités. Parce que typiquement, nous, quand on voit un petit peu sur l'international ce qui se passe, avec les camarades de Columbia aux États-Unis, dans les universités américaines, qui ont été quand même très mobilisées, alors que sous l'administration Trump, je pense que c'est un petit peu délicat de se mobiliser. Donc on a quand même.
Même si la loi s'est durcie récemment en France.
La loi s'est durcie en France. On a par exemple la fameuse loi de lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur qui a réussi qui est sortie, c'est-à-dire qu'on donne encore plus d'arsenal répressif aux présidents et présidentes des universités pour en fait quelconque, on va dire, acte de mobilisation, quelconque acte de rébellion qu'ils affilient à la rébellion au sein des universités, donc qu'ils affilient à l'antisémitisme. On sait qu'ils ont une vision assez large.
Un drapeau palestinien, c'est
l'antisémitisme. Voilà, c'est ça. Une casserolade, c'est un acte antisémite, bien évidemment. Donc voilà, c'est réprimer les mobilisations étudiantes.
Même si t'écoutes Guillaume Meurice, j'imagine.
Mais ouais, c'est l'islamo-gauchisme à son paroxysme.
C'est d'ailleurs une loi très mal nommée, parce qu'à la fin de la loi, il n'y a plus grand-chose sur l'antisémitisme. Voilà. C'est juste une loi de répression.
Aucune mention du racisme, etc. C'est vraiment fait pour du coup tuer les mobilisations dans l'œuf. On l'a vu à Sciences Po, je pense que du coup c'est bien savoir, mais à Sciences Po la répression elle a été très forte. Les forces policières maintenant sont constamment conviées au jeu. Dès qu'un drapeau palestinien est sorti, nous on avait essayé il y a quelques temps d'occuper l'IEP de Rennes, du coup Sciences Po Rennes. On a bien vu que la sécurité était préparée, que les décisions étaient très rapidement prises. De nous menacer du coup d'intervention policière, etc. Donc on voit que la répression est très forte, mais malgré cela, nous en tout cas ce qu'on essaie de faire avec les syndicats, c'est d'avoir un discours et de montrer que dans le milieu universitaire, c'est un milieu où on forme des gens, où on est censé les émanciper et quand on est encore des partenariats avec des entreprises complices du génocide, qu'on est encore des universitaires d'extrême droite qui viennent développer aussi leur discours sioniste, leur discours raciste et antisémite, ça nous semble, c'est quelque chose dans lequel on se mobilise. Et ça me semble assez important de le rappeler aussi que c'est le rôle d'un syndicat étudiant et de fait de l'Union Pirate.
Rich, t'avais envie d'intervenir sur le Sciences Po, je pense.
Alors, même pas, un peu plus global, et j'aimerais revenir sur cette question générationnelle qui est un peu en lien aussi avec les choix qu'on fait à propos de nos modes d'action en tant que jeunes. C'est que moi, je pense, et je parle comme ça au nom des jeunes, faire partie d'une génération de sidérés face à l'action politique, aux institutions, en fait. Je suis sidérée parce qu'on m'a martelé dans tous mes cours d'histoire tout ce qui s'est pas bien passé, tous les drames, tous les massacres, qu'il fallait agir, etc., pour pas que ça se réitère. Et finalement, lorsqu'on veut actionner les leviers institutionnels qu'on avait à notre disposition, on peut pas forcément le faire. Et c'est pour ça qu'en fait, quand je vois des plus âgés dans leurs engagements, bah, eux, ils sont encore dans ce schéma-là de pensée. On peut passer par les institutions pour vraiment avoir un impact sur le long terme, etc. Ce que moi, en tant que jeune, j'arrive plus à me convaincre de ça, en fait, finalement. Et donc, passer par les institutions, passer par ces leviers-là qu'on aurait pu avoir à une certaine époque, bah, ça me semble complètement déconnecté face à l'urgence de la situation. Et c'est pour ça qu'en fait, bah ouais, on bloque. Bah ouais, des fois, ça nous arrive bah, de crier, en fait, parce qu'on a littéralement plus aucun impact si, bon, je sais pas, on signe une pétition, si on va interpeller la maire, etc. C'est pas ça qui va faire changer les choses. D'autant plus, là, quand on parle d'une urgence et d'une catastrophe humanitaire à l'heure actuelle en Palestine. Voilà.
Est-ce que vous avez interpellé la maire de Rennes ?
On n'a même pas essayé parce qu'on a commencé par notre directeur à Sciences Po, on revient sur ça, ça n'a absolument pas fonctionné. On nous ramène des vigiles tous les 4 matins pour vérifier nos cartes étudiantes, pour nous rappeler en arrière-plan que finalement, calmez-vous, il n'y aura rien qui se fera ici, même pour l'événement du 18. On a essayé de quémander un soutien de la part de Sciences Po, ils ne voulaient pas être affiliés à ça. Donc voilà, on n'essaye pas. Honnêtement, on n'essaye pas. On passe par des alternatives.
Faudrait qu'on les invite, Ludo. Bon, bah, pourquoi vous n'aidez pas ? Pourquoi vous...
On peut.
Je ne sais pas si on leur demandera de ramener leur playlist.
Ouais, mais... on mettra nos sons à nous, par contre.
Oui. Bah, ça tombe.
Oui, pour Pablo Diaz, je suis sûr qu'il a des très bons goûts musicaux.
Bah oui, on pourrait être surpris.
Mais on pourrait être surpris, effectivement. Mais de manière générale, je pense que chaque nouvelle génération, chaque nouvelle jeunesse, si je puis dire, connaît une évolution des modes d'action qui est liée aussi à son époque. Et voilà, de manière générale, je pense que la jeunesse, elle se politise par vagues. Ça se sent, tu parlais, toi, de la réforme des retraites. Ça a été un moment de politisation intense. Moi, typiquement, je me suis politisé avec la loi El Khomri en 2016, en entrant au lycée. Je pense que voilà, que les grandes mobilisations sociales, les grandes mobilisations internationales, les grandes échéances électorales, c'est toujours les moments où il y a une politisation accrue de la jeunesse. Il y a des vagues de conscientisation et des générations militantes qui se créent comme ça. Et effectivement, je pense que on peut dire, même si c'est plus complexe que ça, mais je pense qu'il y a une génération palestine aujourd'hui, dans la jeunesse.
Il y avait justement, il y a deux trucs là qui me venaient un peu à l'esprit en vous écoutant. Le premier, c'est de me dire que dans la solidarité internationale, ce qui me semble intéressant aujourd'hui, c'est que globalement, on fait quand même le deuil de... l'idée de défense des intérêts français, de diplomatie française, etc. C'est-à-dire que, de manière très contextuelle et stratégique, évidemment, on est citoyen d'un État, donc on s'adresse à cet État-là en disant bah, « vous êtes censé soutenir vos ressortissants, vous pouvez pas ne laisser faire, vous pouvez pas non plus d'un côté dire « on reconnaît l'État palestinien » et de l'autre côté laisser une occupation, une destruction, etc. » C'est une perspective stratégique et il faut continuer à le dire. Pour autant, ce qui me semble intéressant, c'est cette dimension quand même directe de l'action, que ce soit par le boycott, que ce soit par le blocage, que ce soit par le fait d'aller nous-mêmes briser ce blocus-là, parce qu'en fait on peut pas être dans une incantation sur la diplomatie française, à la fois parce qu'on voit très bien les intérêts communs entre l'État français et Israël, et aussi même que ces intérêts de l'État français, cette diplomatie ou le poids de la diplomatie française, moi j'ai pas non plus très envie d'en être nostalgique, parce que si les diplomates français à une époque étaient écoutés, c'est évidemment parce qu'il y avait le capitalisme français qui était florissant et qui était florissant du fait du colonialisme, du fait de la place militaire de la France dans le monde et notamment en Afrique. Si on, y compris des diplomates pleins de bonnes intentions, attachés aux droits humains, etc., si on les écoute, c'est parce qu'ils remplissent une fonction et qu'ils représentent un État puissant. Et on ne peut pas décorréler justement cette question de la diplomatie, de l'État, etc., de la question de la force militaire brute, quoi. Et le deuxième truc auquel je pensais, justement, quand Fanny, tu parlais par exemple du Jarl ou des combats de Lyon Pirate un peu dans sa globalité, je me disais, mais c'est aussi ça qui parfois, j'ai l'impression, rend un peu fou les réacs. Ce qui m'avait frappé, par exemple, dans le communiqué de la maison d'édition du Jarl, donc l'influenceur d'extrême droite, patron de la, enfin chef de la sécurité de du 88 qui avait agressé tout un tas de gens, notamment une fois lors d'une free party. Quand vous aviez fait partie des organisations qui le dénonçaient, il s'était défendu en disant l'Union Pirate, très bien quand il mène des actions contre la précarité étudiante. On peut évidemment y voir une hypocrisie. Enfin, le YARL est membre des Républicains. C'est pas un mouvement qui brille par le fait de défendre des politiques contre la précarité. Mais ils étaient, il me semble, prêts à peu près tolérer ça, ce discours-là, sous un versant humanitaire. Par contre, ce qui les rendait fous, c'est quand il y avait une dimension plus politique. Ils citaient deux exemples qui les rendaient fous, c'est le fait de parler de la Palestine et de la transidentité.
Oui, c'est sûr qu'on a eu notre lot de... Puis généralement, on était très critiqués parce qu'on a... Il y a plusieurs syndicats, en plusieurs villes, nous, on a quand même une marque de fabrique assez particulière qui est quand même, de, comme je disais, de s'imposer en termes de discours politique parce que la jeunesse, on l'aime bien quand elle est confinée, on va dire, au portail, au mur de son université. Par contre, on la supporte plus dès qu'elle prend le micro ou qu'elle s'exprime de manière plus générale. Mais nous, ce qu'on voulait vraiment montrer, c'est, comme tu disais, Jean, avec le YARL, ça a été très, très visible, c'est que, en fait, je veux dire, la jeunesse, déjà, il y a de multiples jeunesses quand même. Nous, typiquement, le Monde Pirate, on en représente une, mais je sais qu'il y a aussi beaucoup d'organisations à Rennes 2, d'organisations politiques, etc. Et c'est dans cette diversité-là que nous, on trouve un intérêt de se développer. Dans, par exemple, le milieu associatif qui est très développé aussi à Rennes 2, c'est ce qui nous semble, en fait, c'est de faire l'université un milieu de sociabilité. Mais on aimerait que ça traverse les murs de nos universités, qu'on puisse aussi retrouver cette aisance, qu'on puisse retrouver cette liberté d'expression, etc., à l'extérieur, et qu'on puisse aussi avoir nos mots d'ordre qui apparaissent. Et ça, bien évidemment, ça a toujours, en tout cas, l'Union Pirate a toujours défrayé la chronique. Les médias, en tout cas régionaux, n'ont jamais été très élogieux à notre égard. On n'a jamais eu de couverture très fidèle. On nous appelle quand il faut parler de logements insalubres, quand il faut parler de cafards dans des logements crous, on nous appelle quand il faut parler du retard des bourses, et c'est très bien. Mais dès qu'on parle un petit peu plus politique, dès qu'on dit peut-être que ça dépasse justement strictement les conditions matérielles d'existence du coup des étudiants, alors, même si elles sont très importantes, peut-être que nous on a envie aussi de parler de l'internationalisme, peut-être que nous aussi on a envie de parler de ces attaques réactionnaires qui sont multipliées à l'égard de la jeunesse, qu'elles se fassent sur les personnes LGBT, qu'elles se fassent en raison aussi des origines de certaines personnes, typiquement les lois comme Bienvenue en France. Nous, rien que ce matin, au conseil d'administration de Rennes 2, pour être tout à fait transparente, on parlait, il y avait une motion qui a été déposée qui dénonçait les lois racistes qui maintenant trouvent leur élève, on va dire, un petit peu sont une règle générale dans l'enseignement supérieur. Bienvenue en France, c'est la hausse des frais d'inscription pour les étudiantes extra-communautaires. Et on voulait dire que on a qualifié cette loi d'une loi raciste et on a direct été stoppé par la présidence qui nous disait que ce n'est pas une loi raciste puisqu'elle est permise par la loi. Le racisme est un délit. Cette loi n'est pas raciste. D'accord, elle n'est pas forcément très bien, nous on s'oppose à ça, mais elle n'est pas raciste. Et c'est une folie de voir à quel point on est confiné à un rôle de faire distribution alimentaire. Voilà. Tout le monde aime nos distributions alimentaires. Mais nous, on a un discours plus large sur la précarité cette précarisation organisée par le gouvernement, je pense que maintenant, elle est très visible. Et dès qu'on a des mouvements qui se développent à Rennes 2, je peux parler par exemple du mouvement contre l'austérité qu'on a mené l'année dernière, ça n'intéresse plus personne. On bloque pour bloquer, on n'a aucune revendication. Et pour la situation en Palestine, c'est exactement la même chose. Les étudiants ils sont juste là pour se beuler, comme on dit, pour foutre le bordel.
Je connais pas ce terme.
Zbelé.
Au XXe siècle, on disait pas ça. Hein.
Ouais, bah maintenant on le dit au XXIe. Voilà.
Zbelé.
Ah, t'es parce trop vieux, toi. Le bazar, ouais. Quoi.
Non, mais Ludo, il a des enfants, donc il parle le jeune couramment. Moi, je suis largué. Okay.
Ouais, le Zbelé, c'est le bazar, voilà. C'est comme ça qu'on l'appelle.
Mais ça peut être Champ Max, parfois.
ça se découle depuis 2006.
Voilà, là il y a du vocabulaire qui. Voilà. Le fossé générationnel, voilà, il est là finalement. Mais
non,
voilà.
Mais cool, Raoul. Hein.
Oui, voilà.
2012, là, 2012.
Peut dater. Mais oui, non, mais voilà, ça me semble intéressant quand même de montrer que la situation palestinienne, comme tu disais, Vivian, nous on n'est pas dans un discours toujours très républicain. C'est de dire à partir du moment où on touche à l'avenir d'une jeunesse en raison de son origine, en raison de sa religion, etc., s'attaquer la jeunesse dans son entièreté.
Et peut-être. Avant de faire notre dernière interlude.
Je sais pas, il nous reste un peu moins de 10 minutes. Donc, ou on termine en parole et puis on termine avec de la musique. Ou alors on met de la musique maintenant.
Ou alors on repasse l'extrait de l'entrepreneur excédé le 10 septembre qui avait appelé RMC pour dire qu'il était bloqué sur la rocade de Rennes par les crasseux de l'Union Pirate.
Il est plus la pisse, les babos de Rennes.
Mais moi j'avais une question, n'étant plus à l'université depuis bien longtemps. En termes de rapport de force, comment... Alors, on a dit déjà la semaine dernière que Rennes, c'était quand même particulier. Mais en gros, c'est quoi la sociologie de Rennes 2 et plus loin, c'est quoi la sociologie des universités en France? Est-ce que majoritairement, il y a des actions, par exemple, pour la Palestine en ce moment, ou minoritairement, dans quelle proportion? Et au-delà de la Palestine, c'est quoi la température en termes de mobilisation politique pour cette génération dans les lieux d'enseignement?
Alors je peux commencer, vous compléterez voilà, si vous estimez, mais moi en tout cas, typiquement Rennes 2 c'est un exemple qui est assez important, enfin qui pour moi qui est un très bon exemple, c'est-à-dire qu'on c'est visiblement, et ça l'est historiquement quand même, une université très engagée dans les mouvements sociaux, etc. Enfin là, très engagée, je pense au Mirail, Paris c'est pareil, Tolbiac, etc. Donc on a ces campus qui sont historiquement très engagés, mais moi je pense qu'il y a quelque chose aussi qui a rectifié, c'est-à-dire quand on analyse la sociologie, enfin nous on le voit bien au quotidien de toute façon, c'est-à-dire que ce sont des universités engagées mais qui ne le soient non plus la majorité, c'est-à-dire qu'on a toujours, on peine toujours à mener des actions, on a toujours une communauté étudiante qui aussi est contre typiquement les blocus, voilà, qui est contre ce type de mobilisation. Je veux dire, voilà, il ne faut pas non plus, moi, pour moi, idéaliser hein, les mobilisations étudiantes, idéaliser les campus très engagés, etc. Mais moi je pense qu'on en a parlé, la jeunesse est quand même particulièrement voilà, touchée par la précarité, je pense qu'il y a aussi cette chose-là qui fait qu'elle est plus poussée à un engagement, ou en tout cas plus poussée à critiquer l'ordre établi, si on peut l'appeler, si on peut l'appeler comme ça. Mais il y a toujours quand même cette division au sein même des étudiants et des étudiantes, en plus quand on voit aussi les logiques néolibérales hein, qui sont les logiques de l'université aujourd'hui, avec les financements des universités, en tout cas publiques, qui baissent énormément, la loi Baptiste qui arrive bientôt, etc. On voit quand même qu'il y a cette mise en compétition des étudiants entre eux. On le voit beaucoup chez nous. Entre universités aussi, on a des sous-dotations d'universités. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est très, très important de dire. Donc pour moi, la jeunesse n'est pas en accord sur toutes les revendications. On a des universités, on a des écoles voilà, qui sont beaucoup plus financées, qui voilà, également aussi, enfin on le voit bien, hein, mais maintenant l'université, maintenant l'enseignement, c'est pas ouvert à tout le monde, c'est pas ouvert à les classes populaires, voilà, sont quand même sous-représentées, etc. On a toutes ces logiques sociologiques qui montrent que quand on traite de l'université, du monde universitaire, quand on traite des étudiants et des étudiantes, il faut aussi prendre en compte ces choses-là, les ségrégations qui peuvent exister, voilà, les problèmes du coup, de financement, du coup, les problèmes aussi d'accession à l'enseignement supérieur qui sont de plus en plus marqués. Voilà, moi, je pense qu'il ne faut pas idéaliser non plus cette jeunesse, il faut aussi la montrer telle qu'elle est, et elle est quand même très divisée.
Tu partages le regard à Rige ?
Ouais, complètement. Enfin, moi, je vais parler de Sciences Po, qui est un milieu majoritairement très privilégié. Et il y en a beaucoup aussi qui s'engagent parce que c'est à la mode. Parce que, bon, on construit sa petite personnalité de militant pendant ses années étudiantes. Exemple type, on a un espèce de rassemblement entre instituts d'études politiques annuels où c'est un rassemblement sportif. Bon, ils ont balancé des drapeaux palestiniens, Free Palestine, ils se sont tous applaudis, ils ont envoyé ça partout en story, etc. Et sur le chemin du retour, ils se sont arrêtés à une station-service et ils ont mangé au McDo. Typiquement, c'est ça en fait. C'est l'image qu'on renvoie, mais on est complètement déconnecté de la réalité. C'est une forme d'inconscience aussi que moi je vois tous les jours à la fac. Quoi. Donc voilà, c'est pour ça.
Malou.
Et ouais, non, de manière générale, il y a, comment dire, je pense qu'on peut quand même dire qu'il y a un soutien massif de la jeunesse à ces mobilisations. Les gens, ils ne sont pas forcément tous individuellement mobilisés, pas tous individuellement sur les blocages à 6h30 à Rennes 2, il n'y a pas les 20 000 étudiants, effectivement, ça je vous le confirme, ce qui n'empêche pas qu'ils fonctionnent. Mais justement, rien que le fait qu'ils fonctionnent montre voilà, que les étudiants derrière suivent quand même pour une large partie d'entre eux. Je pense qu'on peut quand même dire aujourd'hui qu'une majorité de la jeunesse étudiante, notamment à Rennes 2, mais Rennes 2 c'est particulier, c'est quand même une fac très populaire par rapport à...
Non, puis Rennes, je trouve Rennes, Nantes, c'est oui, quand même des villes très étudiantes et aussi de gauche.
Bien sûr,
voilà, oui. C'est pas pareil à Lille, à Montpellier, etc.
Montpellier, après oui, pareil, Montpellier est quand même bien mobilisé aussi, mais bon, voilà, on pourrait rentrer dans la sociologie des facs et compagnies françaises, mais effectivement, il y a quand même, oui, il y a une mobilisation particulière à Rennes, mais il y a
il y a une génération qui est quand même très engagée, et notamment voilà sur le sujet palestinien. Après, moi, peut-être pour renoncer très rapidement ce que tu disais tout à l'heure, Vivian, mine de rien, les mobilisations anti-impérialistes et parfois très directement tournées sur la question de l'impérialisme français, elles ont toujours bien marché dans le milieu universitaire. On peut penser à la mobilisation par rapport à la guerre en Algérie, on peut penser à la mobilisation par rapport au Vietnam. Et je pense qu'aujourd'hui, la mobilisation par rapport aux droits du peuple palestinien, elle s'inscrit aussi dans cette filiation-là. Enfin bon.
Ça ressemble à une conclusion.
Demain, soutien à la Palestine, 15h à la République. Et si la flottille est attaquée, que les bateaux sont raisonnés et que l'équipage est incarcéré, on se retrouve à 18h, place de la mairie.
Demain, samedi, place de la mairie de Rennes.
15h.
15h République demain. 15h République demain samedi. Et s'ils sont attaqués, 18h à place de la mairie.
Et comment on sait ça?
Parce que je viens de le dire.
Oui, non, mais je veux dire une adresse.
Les réseaux sociaux des jeunes insoumis de Rennes ou de l'île pirate. Hein.
Ou de Rennes-Palestine.
Ou de Rennes-Palestine. Subtil.
Quelques notes de musique, on se dit au revoir.
Ouais, on dit au revoir maintenant, on n'aura pas le morceau en entier, je suis désolé, Arij.
Non, il n'y a aucun souci, mais j'aimerais finir sur Hadiya Bahad, qui a été écrit par Abu Arab, l'un des pères de la résistance palestinienne. Et donc cette musique s'inscrit en 1947, lorsque le peuple palestinien a été contraint d'être repoussé en fait de ses terres. Une partie est partie au Liban, et l'autre a été repoussée jusqu'à la mer. Et en fait, cette musique, c'est un appel à l'océan pour qu'il soit clément avec ce peuple martyrisé. Et voilà, c'est un message d'espoir pour la libération de ce peuple.
Cœur, bisous les amis, à la semaine
prochaine. لابد من عود مهما طول المشوار يا با يا توتة الدار صبرك عالزمان انجار لابد من عود مهما طول المشوار يا با يا توت الدار حلفتك برب الكون لابد من عود لابد من عود مهما طول المشوار يا با اوف اوف ودي يا بحر هدي طولنا في غيبتنا ودي سلامي ودي للأرض اللي ربتنا هدي يا بحر هدي طولنا في غيبتنا ودي سلامي ودي للأرض اللي ربتنا وسلم لي عالزيتوني على أهل الربوني عالزيتوني وعلى أهلي ربوني وبعد أم الحانوني بتشمشم بمخدتنا هدي يا بحر هدي
كانال بي راديو كيوريوز